En tout cas, c'est un grand honneur pour moi, en tout cas, d'être là à faire en cas cette intervention devant le ministre de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Élevage de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement. Je pense que c'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire pour quand même, en cas, tous les thèmes qui ont été discutés depuis ce matin devraient aller dans un sens où on dresserait des politiques agricoles adaptées à nos différents états. Je crois que c'est comme ça que je vois la partie sur la mécanisation. Parce que la mécanisation est un levier de productivité, autant que les semences sont un autre levier de productivité. Si pour les semences, on peut dire qu'au moins 30% de composantes de rendement viennent des semences de qualité, autant dire au moins 20% proviendraient de la mécanisation de la culture, c'est-à-dire de la conduite de la culture. Et chaque fois, comme nous le disons, un bon travail du sol est toujours un préalable à un bon rendement. Ce que je dis là, je le dis, ça fait parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans la mécanisation. Et je connais pratiquement beaucoup de facettes de la mécanisation. Ayant eu, en tout cas, ma formation, une bonne partie de ma formation dans la mécanisation, je sais que c'est un facteur de production qui pose beaucoup de problèmes. Non pas que cette technologie ne donne pas des résultats, mais surtout que cette technologie n'est pas bien maîtrisée chez nous. Parce que toujours, nous travaillons avec nos partenaires dans un processus de transfert de technologie. Et ce transfert de technologie des pays du Nord, généralement vers les pays du Sud, parce que nous n'avons pas créé les tracteurs, nous n'avons pas créé les moissonneuses-batteuses, quelquefois il y a des problèmes. Et souvent quand on parle de transfert de technologie, notamment quand on parle de mécanisation agricole, il faudrait que ces technologies-là soient adaptées. On a beaucoup parlé de zones de production depuis ce matin. Où est-ce qu'il faut cultiver du riz? Est-ce que c'est en irrigué? Est-ce que c'est en pluvial? Est-ce que c'est en bas-fond? Ce n'est pas les mêmes variétés. C'est exactement la même chose en mécanisation. Vous voulez mécanisation votre agriculture, vous voulez mécaniser. Dans quelle zone vous voulez faire cette mécanisation? C'est quel type de sol? Tout ça, c'est des facteurs sur lesquels, si on ne prête pas attention, le transfert de technologie devient un cauchemar. Parce que, qu'on le veuille ou non, la mécanisation, notamment l'importation des tracteurs dans des systèmes de production à base essentiellement de petites exploitations agricoles, peut devenir un facteur d'appauvrissement. C'est-à-dire, au lieu de vous enrichir, si on fait les calculs, on se rend compte que vous vous appauvrissez chaque fois que vous utilisez le tracteur, parce que le tracteur n'est jamais dans les réelles conditions d'utilisation, notamment de rentabilisation. Donc, ce que nous disons, c'est que pour ce type de technologie que nous introduisons chez nous, la recherche a un important rôle à jouer. Dans le temps, on le faisait, mais maintenant, je crois que, je mets entre guillemets, c'est devenu une affaire de privé. C'est des privés qui vont acheter du matériel agricole, qui les vendent aux producteurs, sans beaucoup de soucis de savoir est-ce que ce matériel est adapté ou non, parce que c'est un privé, il veut vendre son matériel agricole. Et nous, ce que nous disons, c'est que le matériel agricole qui est transféré dans des contextes bien particuliers et chez des producteurs spécifiques, il faudrait au moins que ce matériel remplisse 4 critères. Le premier critère, il faut que ce matériel soit dans son utilisation économiquement rentable. Il faut qu'on puisse démontrer qu'il y a une rentabilité dans ce système à utiliser un tracteur, même si vous voulez un matériel de traction animale, que le producteur sente quand même qu'il est à un niveau, en utilisant le tracteur, il va améliorer son système de production. Le deuxième niveau, il faut que la technologie soit techniquement faisable. Si vous introduisez une technologie que personne ne maîtrise, ou bien chaque fois il faut aller encore appeler ceux qui nous ont donné le tracteur, en tout cas pour nous permettre de réparer ou bien de faire des choses comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une stabilité dans l'utilisation de ce matériel agricole. Donc la technicité et la technologie n'est pas maîtrisée, donc ce n'est pas techniquement maîtrisé. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, il faut que ça soit socialement acceptable. Comme vous le savez, souvent les gens s'équipent non pas parce qu'ils ont besoin de ce matériel, mais à cause de leur statut social. Parce qu'on dit, ah, le tracteur, c'est pour le chef du village. Le tracteur, c'est... Donc, c'est pas une question de... C'est juste le standing pour que les gens s'équipent. Et souvent, les gens s'équipent juste pour avoir, en tout cas dans les villages, avoir un matériel agricole plus performant que les autres. Mais sur le plan stabilité sociale, souvent, ça pose problème. Et le quatrième auquel on ne peut rien, c'est que ça soit respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, on ne va pas encore, vous le savez tous, il y a maintenant, on ne peut plus faire des choses sans faire l'impact environnemental. Qu'est-ce que ce tracteur ou bien ce matériel agricole apporte à notre système? Si c'est un matériel à cause de son utilisation, dégrade les sols. Et ça, je peux vous donner des exemples. Vous allez dans le bassin arachidier, on avait utilisé à outrance la traction animale à un moment donné. Pour son utilisation, la recommandation était, bon, il y a des arbres, il faut les dessoucher, il faut les enlever. Et maintenant, vous voyez des hectares, il y a la dégradation. Le vent souffle, le sol s'en va, la pluie vient, rien ne retient plus le sol. Et souvent, l'utilisation de ces tracteurs nécessite un environnement d'utilisation qui fait que souvent, si ce n'est pas vraiment respectueux de l'environnement, autant qu'on soit très prudent pour ne pas perdre le capital sol que nous avons dans nos pays, et ça se vérifie dans certains pays. Donc, la mécanisation, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste en cas un outil qui nous permet d'augmenter la productivité de notre système de production. Donc, à partir de ce moment, je pense que l'État a un rôle très très important à jouer. En tout cas, ici au Sénégal, nous y travaillons depuis un certain temps. Je crois que ce document va être validé dans les, en tout cas, j'espère bien d'ici la fin de l'année. C'est la stratégie nationale de mécanisation agricole. C'est de participer, c'est de partir de typologie, de type de mécanisation par rapport aux systèmes de production qui sont visés. Et à partir de ce moment, on va cadrer les besoins des producteurs suivant les zones et savoir quel est le type de mécanisation qui pourrait permettre à ce système-là, effectivement. Et ça, l'État a un rôle important à jouer parce que l'État reste garant de cette stratégie nationale, parce que c'est des techniciens du ministère de l'Agriculture, en tout cas avec les partenaires privés qui vont travailler, et les producteurs qui vont travailler autour de cette stratégie nationale de mécanisation. Et à partir de ce moment, l'État va faciliter l'acquisition de matériel agricole à travers cette stratégie nationale. Je vais vous donner juste un exemple, et je pense que certainement les honorables ministres qui sont là ont toujours été, ont été confrontés, ou bien risquent d'être confrontés à ce type de problème. C'est dans le cadre de la coopération entre pays. Souvent, je vois, c'est inscrit, ah oui, nous allons vous donner 500 tracteurs, nous allons vous donner dans le cadre de coopération, et on signe. Et ça, j'en ai tellement vu. Depuis 30 ans que je vois ça. La première année que j'ai vu ça, je ne vais pas citer le pays, mais je venais d'arriver, et tout de suite, il y avait une coopération, et c'était en Casamance. Il y avait une cinquantaine de tracteurs, non, plus que ça, c'était 125 tracteurs qui venaient d'un pays du Nord, qui avaient été donnés pour l'État, et c'était pour la riziculture. Bon, on commence à travailler, les tracteurs commencent à tomber en panne. Je dis, oui, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas de pièces détachées qui accompagnent ce tracteur. Deuxièmement, on dit, bon, on va demander au pays qui nous a donné ces tracteurs, est-ce qu'on peut les réparer? Ah, la grande surprise, c'était des tracteurs qui étaient en fin de série. Donc, ça veut dire que l'entreprise qui avait donné ces tracteurs ne fabrique plus ces tracteurs-là. Donc voilà, on est dans un système un peu vicié là, de cadeaux empoisonnés, de telle sorte que cette mécanisation, on a débouché sur des cimetières. Vous allez dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, je sais que dans l'Afrique, pas uniquement de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle les cimetières de tracteurs. Vous les voyez, des tracteurs en panne partout, partout, partout. Non pas que ce n'était pas de, au départ de bons tracteurs, mais simplement, on n'a pas su avoir un service après-vente et de régler ces tracteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle le cannibalisme technologique. Le cannibalisme technologique, c'est quoi? C'est aussi simple. On vous donne deux tracteurs, ou bien ça, dans le cadre de coopération, les gens ont une dizaine de tracteurs, un tracteur tombe en panne, l'autre est un peu clippant, clopant, on dit, on démonte les pièces de ce tracteur-là, on répare ce premier tracteur, donc ce tracteur-là, on le garde, et progressivement, les 10 tracteurs s'en vont, parce que, effectivement, ça n'a pas été raisonné, c'était pas adapté, et là, donc, il y a que la stratégie nationale qui permet de régler ça, parce que l'État, dans une stratégie nationale, doit faciliter l'acquisition de ces matériaux. Ici, au Sénégal, on parle de taxation, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, bon, c'est, actuellement, il y a ce qu'on appelle la subvention sur l'achat du matériel agricole, mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire faire en sorte que ce matériel, un privé puisse acheter lui-même, qu'on, qu'il ne s'adresse pas toujours, attendre toujours que l'État amène des tracteurs, parce que l'État ne cultive pas, il faut le dire. L'État ne fait que, disons, mettre l'environnement de la production de telle sorte que les producteurs puissent accéder à ces matériels. Donc, ça, dans cette stratégie, faisons que le matériel ne coûte pas aussi cher à cause des taxes. Donc ici, on parle de détaxation du matériel agricole. Donc, quiconque qui importe un tracteur, on détaxe. Quiconque qui achète du matériel pour la fabrication de petits matériels agricoles, la matière d'œuvre qui est utilisée est détaxée. Il y a beaucoup de mesures comme ça qui doivent figurer, si vous voulez, dans la stratégie de politique nationale de politique agricole. Et puis s'orienter dans la filière de formation au niveau des universités, qu'on puisse former aussi des jeunes à l'utilisation des matériels agricoles. Mais ce qu'on voit maintenant, je vous dis que vous voulez envoyer un technicien de votre pays dans une université pour apprendre le machinisme agricole, ça n'existe plus. Vous allez en France, il n'y a aucune université qui offre de formation sur le machinisme. Nous, on est obligé maintenant d'aller au Brésil. Il n'y a que les pays émergents qui ont maintenant la mécanisation agricole comme un diplôme qui est délivré à l'université. Vous allez, le dernier pays, c'était la Belgique. Maintenant, c'est, soit vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, ou bien vous allez au Brésil pour être formé en machinisme. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas attention, on va livrer nos paysans à des gens qui vont leur donner à consommer du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour les conseiller. Donc, faisons en sorte que chez nous, qu'on ait de la filière de mécanisation agricole dans les lycées techniques. Nous l'avons commencé à Saint-Louis avec le lycée technique André Pétavin, où nous formons beaucoup de jeunes qui actuellement, dès qu'ils sortent en cadre du lycée, sont prêts à appuyer les producteurs pour la réparation. Vraiment, tu as parfaitement raison. J'aurais dit que ça n'allait pas être long, mais vous m'avez touché dans mon domaine un peu, donc c'est un peu ça le problème. Mais je vais sortir juste par dire une chose. J'avais entendu tout de suite un débat sur l'enherbage des rizières. Bon, j'ai dit, bon, ok, l'enherbage des rizières. Vous avez, bon, le riz, après le riz, ça ne pose pas de problème. Si c'est l'enherbage, donc ça dit que c'est autre chose qu'il faut mettre. Vous allez dans d'autres pays, le glyphosate, tout le monde entend parler, les gens mettent beaucoup d'herbicides. C'est pour maîtriser les mauvaises herbes. Mais chez nous, la non-maîtrise de la mécanisation et notamment du travail du sol ne fait qu'augmenter le taux d'enherbement des parcelles. Quand on vous dit de labourer à 15 cm, les gens grattent au-dessus, n'enfuissent pas les mauvaises herbes, c'est juste un coffre propre qui est derrière qu'on tire, on a l'impression que les gens font un travail du sol, mais nous, en tant qu'experts, on sait qu'on ne fait pas, on ne fait rien de ça. La recommandation forte que nous avons faite dans la vallée du fleuve Sénégal, et Mme Cissé peut me témoigner là-dessus, certainement actuellement dans ces parcelles, il y a trop de mauvaises herbes, mais ce qu'on avait dit, si vous utilisez un cover crop, ok, vous pouvez l'utiliser 2 ans de suite, mais la troisième année, faites un labour profond. C'était bien ça. Mais bon, le labour profond, personne ne le fait, parce que ça coûte excessivement cher. C'est-à-dire, si vous faites utilisez un cover crop, c'est 22 000 francs à l'hectare que vous payez. Mais un travail de profondeur à 45, c'est 60 000 francs à l'hectare. Donc, personne ne va le faire. Mais si les gens continuent cover crop chaque année, mais les mauvaises herbes vont utiliser. Donc, la seule réponse, c'est de faire cover crop, herbicide. Et vous allez dans des rizières, il n'y a pas de, c'est nickel, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais si vous allez dans la vallée, c'est parce que c'est la technique de travail du sol qui fait qu'effectivement, les mauvaises herbes pullulent chaque année. Donc, je crois que ça, la recherche a tellement de résultats là-dessus et de recommandations. Simplement, il faudrait peut-être les revisiter et que les gens maîtrisent bien les techniques, les bonnes pratiques agricoles. Et puis, bon, que le conseil agricole, dans le processus de dissémination de cette technologie-là, qu'on puisse mettre tout un paquet d'accompagnement en termes de renforcement de capacité des producteurs à l'utilisation du matériel agricole. Les CUMA sont là. Les CUMA, c'est les centres d'utilisation de matériel agricole. On peut avoir aussi les CPS, c'est les cellules de prestation de services. Je pense que c'est des professionnels qui, si vous faites de la prestation avec eux, logiquement, parce que c'est des professionnels qui doivent pouvoir faire mieux le travail du sol. Certes, si vous ne faites pas attention, comme c'est de la cellule de prestation de services, ils veulent aller vite pour aller ailleurs, pour effectivement, donc il faut un mauvais travail. Je crois que ces questions-là, on doit les adresser de manière explicite dans la stratégie nationale en cours de mécanisation, à travers tous les services de conseil agricole, comme nous avons l'encart ici. Donc je peux aller encore plus, mais vraiment, je ne veux pas prendre tout le temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention.